de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on vient le découvrir?
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama. C'est une demi-heure pour parler de cinéma avec des chroniques, avec des blind tests et des interviews. On aurait pu faire un blind test d'ailleurs bien autour de la filmographie de Michel Blanc, évidemment, qui nous a quittés. Mais on attend encore quelques semaines quand l'actualité cinématographique sera moins dense que celle actuellement. Alors bonjour à toute l'équipe. Chacun, vous avez un film et moi j'en aurai deux. Alors on va commencer par toi, Sophia, parce que c'est le gros film américain du moment.
Oui, c'est le Joker Folia 2 qui est sorti mercredi dernier déjà.
Et puis toi, tu as un film des voisins québécois.
Un film qui s'appelle Sur la terre comme au ciel de Nathalie Saint-Pierre.
Et quant à toi, Guillaume, je crois qu'elle est espagnole, oui.
C'est ça, d'ailleurs, elle nous amène dans l'arrière-pays espagnol, dans Un amor, Isabelle Coixet.
Et puis moi, j'aurai deux biopics. Y en a un qui est sur un homme politique très connu, c'est Donald Trump, avec The Apprentice qui était à Cannes. Et puis un autre film qui était à Cannes, c'est Nikki, film de Céline Sallette autour de la vie de Nikki de Saint-Phalle. Todd Phillips a remis le couvert avec Joaquin Phoenix en appelant aussi Lady Gaga. Nous commençons avec Joker Folia 2.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan.
Le procès du siècle.
Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre.
Après la sensation créée en 2019 avec Joker, Todd Phillips revient avec une suite qu'on n'attendait pas forcément, mais que l'on découvre avec curiosité. Connu pour ses comédies Very Bad Trip et Very Bad Trip 2, Phillips s'est donc déjà illustré dans l'exercice périlleux des suites, hein, là où de nombreux réalisateurs ont pu se casser les dents. On pense notamment au Wachowski avec Matrix Reloaded, notamment. Alors, le premier Joker, c'était plus d'un milliard de dollars au box-office mondial et 2 Oscars remportés, dont celui de meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Joker Folia 2, sorti récemment, ne semble pas rencontrer le même succès, avec seulement 40 millions de dollars au box-office américain lors de son premier week-end, bien en dessous, en fait, des attentes. Sans parler de la réception critique aux US comme en France, qui est loin d'être dithyrambique. Avec le Joker de 2019, Phillips avait non seulement rompu avec son genre de prédilection, mais s'était également démarqué des autres incarnations du Joker, que ce soit celui de Christopher Nolan dans The Dark Knight ou celui du DC Extended Universe. Dans Joker Folia 2, il opère une nouvelle rupture pour son anti-héros, qu'on avait vu danser en mode montée des marches façon chorégraphie désarticulée. Eh bien, le voilà qui chante à présent. Ainsi, Phillips amorce un virage subversif vers la comédie musicale.
Pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça.
Le film s'ouvre sur une séquence animée qui rappelle les vieux cartoons ou les séries animées telles que Batman The Animated Series, dans laquelle le Joker est un personnage récurrent. Cette séquence retrace le dernier acte de violence du Joker lorsqu'il a tué en direct sur un plateau télé l'animateur Murray Franklin dans le dernier opus, qui était le premier opus. Elle symbolise bien l'ombre des actes passés d'Arthur Fleck, revisité par ce traitement fantasque pour souligner son état psychotique puisqu'il y est dépeint comme victime de son alter ego maléfique, la personnalité dissociée du Joker qui prend possession de lui. Et pourtant, c'est bien comme une personne apte à subir son procès qu'il est sur le point d'être jugé en tant qu'Arthur Fleck, 2 ans après les meurtres du premier film. Désormais incarcéré dans l'austère prison d'Arkham, où il ne rit plus et ne parvient plus à amuser les gardes de ses blagues, il rencontre Harley Quinn, trouvant ainsi une complice. Le Joker n'est plus seul. Ce second volet se concentre donc sur le procès de Fleck, tandis que Phillips opte pour une approche radicalement différente du premier film, permettant de faire vivre l'idylle entre ces deux protagonistes amoureux en intégrant des séquences musicales. Né d'un rêve de Joaquin Phoenix, ce virage marque une volonté de démaquiller le Joker et de casser le jouet de l'anti-héros, lui apportant une nouvelle vulnérabilité tout en nuances.
Tu peux
L'arrivée de Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn, la binôme romantique du Joker, représente l'un des points forts du film. Connue pour ses performances spectaculaires en tant qu'artiste et chanteuse, Gaga a déjà brillé au cinéma dans A Star Is Born ou encore dans la sensationnelle série d'horreur American Horror Story de Ryan Murphy, qui est d'ailleurs également créditée sur Joker Folie à 2. Elle parvient à transformer la folie d'Harley en quelque chose de presque poétique. La dynamique entre Joaquin Phoenix et elle est explosive, donnant une autre dimension à leur relation toxique. Harley, tout comme la mère d'Arthur Fleck dans le premier film, se révèle manipulatrice, poussant Fleck à se réfugier dans son alter ego du Joker, une personnalité dissociée à laquelle il fait recours. Le terme, d'ailleurs, Folie à deux, fait référence à une psychose partagée, et c'est exactement ce que le film illustre à travers ce couple fusionnel. La comédie musicale devient alors le lieu d'un fantasme partagé, où ils arrivent tous deux à exister en dehors des limites carcérales et sociétales. Visuellement, le film illustre parfaitement cette dichotomie en plongeant dans des contrastes forts. La ville de Gotham, l'asile et l'institution pénitentiaire d'Arkham, sombre et froid, se heurtent aux séquences musicales vibrantes, avec une gestion des couleurs et des lumières plastiquement remarquables. Phillips mêle brillamment deux genres que tout oppose, le drame psychologique et la comédie musicale. Ce choix subversif déconcerte et il est vrai qu'il peut un peu diviser. Ces numéros musicaux, cependant chantés en live par ces deux acteurs principaux, mettent vraiment bien en exergue la fragilité du duo, en particulier celle du Joker, anti-héros, en perpétuelle quête d'identité, loin du super-vilain classique. Le Joker ne se contente plus de danser sur les ruines de Gotham, il chante désormais au bord du gouffre.
Je ne laisserai plus jamais personne.
J'ai comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison.
Alors que le cinéma traverse une crise à plusieurs niveaux, entre la montée des plateformes de streaming, la baisse de fréquentation des salles et la difficulté de financer des projets originaux, des films comme Annette de Léos Carax ou Emilia Pérez de Jacques Audiard misent sur la comédie musicale pour offrir une expérience singulière. Joker Folie à deux s'inscrit dans cette tendance. Ce genre, bien que loin d'être innovant, offre une forme de spectacle total, accessible et divertissant qui continue d'attirer des spectateurs. Todd Phillips semble l'avoir compris en misant sur cette hybridation surprenante. Bon, vu le succès rencontré actuellement, on ne peut pas parier sur cette formule pour maintenir l'attractivité des salles de cinéma, mais il ne tient qu'à nous d'aller le voir sur grand écran et je vous assure, tout se passera bien, même quand il chante faux, Joaquin Phoenix chante mal très bien.
Joker Folie à deux, film en salle depuis le 2 octobre. Une adolescente se met à la recherche de sa sœur qui a fui leur communauté religieuse. Nous parlons de Sur la Terre comme au ciel.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Encore une fois aujourd'hui.
Je suis.
Il y a plein de choses que tu dis pas. T'as vu ta sœur s'éloigner du chemin, puis t'as rien dit.
Sur la terre comme au ciel, alors un titre qui sonne un peu comme ça à l'oreille, un peu comme une prière. Hein. La cinéaste Nathalie Saint-Pierre, 11 ans après son premier long métrage, Catimini, revient derrière la caméra pour une œuvre étrange qui prend pour cadre la religion sous son prisme le plus fondamentaliste. Alors deux jeunes sœurs, Clara et Sarah, vivent depuis toujours à la campagne, coupées du monde moderne, dans une communauté chrétienne proche des sectes. L'action semble se dérouler, alors un peu comme dans le village de Shyamalan au 18e ou au 19e siècle, l'impression vite désamorcée dès les premières minutes avec l'irruption de voitures. Donc c'est un film très contemporain. Le jour où sa sœur disparaît sans laisser de traces, Clara perd tous ses repères. Persuadée de savoir où elle se cache, Clara s'enfuit de la prison familiale et part à sa recherche, persuadée donc de la ramener dans le droit chemin. Mais c'est sans compter la découverte d'un monde tout autre lorsqu'elle débarque chez sa tante Louise à Montréal.
Sarah !
Quelqu'un l'a vue. Elle est partie.
Ça se peut pas, elle serait jamais partie sans me le dire.
C'est le temps de m'aider, Sarah.
Est-ce que vous avez vu ma sœur, s'il vous plaît ?
Parce que les cachettes ne montent pas ici.
Je vais chercher Sarah, ma sœur.
Oui, allô, c'est Louise, là. Je suis la sœur de Josiane. La petite est arrivée ici, là. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ta sœur a fait n'importe où, hein. C'est grand, Montréal, ma chouette.
Elle va finir par arriver, c'est sûr.
Vendredi, je tombe en vacances. Fait que si tu l'as pas retrouvée d'ici là, moi, je te pogne, je te mets dans un autobus, t'en retournes chez vous, pas de chialant. C'est clair?
Merci.
Alors, malgré l'accent québécois... Non, mais ça se passe bien, on n'a pas besoin de sous-titres. Ce qui n'est pas le cas, je trouve, de beaucoup de films. Là, et en plus, il y a une voix off où l'actrice perd son accent. Voilà, c'est une petite aparté. Hein. Donc, récit d'apprentissage, une noix blanche confrontée à la société actuelle sur la Terre comme au ciel déroule une progression dramatique assez convenue, hein, enchaînant les situations prévisibles d'une adolescente perdue dans une ville aux antipodes de son éducation. Alors, si vous cherchez une critique de l'obscurantisme, des sectes, hein, vous allez être un peu déçus. Hein, non pas que le film soit encarté dans un prosélytisme religieux, ce que le nom de la réalisatrice pourrait laisser penser, ça s'appelle quand même Saint-Pierre, mais il a tendance à botter en touche, à ne prendre aucun risque politique, hein, renvoyant dos à dos finalement deux cultures différentes, deux manières de concevoir l'existence, dans un relativisme un petit peu douteux. Alors d'autant que la tante de Clara, hein, censée incarner la féministe libérée de toute emprise idéologique, est gravement atteinte d'une autre emprise, l'alcool, perçue comme un vice emblématique de structure sociale, bah, où la liberté individuelle est aussi une autre forme de religion. Alors ce personnage un peu caractérisé à gros traits, un peu comme dans les films de Xavier Dolan, hein, et par ailleurs trop caricatural pour convaincre, alors en dépit de l'excellente prestation de la comédienne Edith Cochrane. Mais les dialogues surécrits et sursignifiants empêchent quand même par artificialité, alors peuplés de bons mots, d'aphorismes et de slogans. Cette écriture déficiente du personnage joue contre le film, et c'est dommage parce que son intérêt est ailleurs, dans l'évolution progressive de Clara, dont l'obsession de la disparition de sa sœur s'efface progressivement, alors pour se diriger vers une quête de soi, puis une découverte de son corps, hein, avec une très jolie séquence dans une bouquinerie où elle semble complètement perdue et émerveillée par tous les livres qui l'entourent. Hein, elle qui n'a lu qu'un livre depuis son enfance, à votre avis?
La Bible.
Bah oui, la Bible.
Pour savoir si Dieu existe, j'avais l'air quoi?
Toi, tu crois en Dieu, un espèce de papa tout puissant qui capote la petite chèque à la longueur de ta jupe?
Je découvre ce monde où t'es venu te cacher et où j'ai déjà peur de me perdre.
Alors la mise en scène, elle est plutôt élégante, hein, portée par une caméra très mobile, hein, beaucoup de plans séquences, très jolis. Et là, c'est un peu terni par une photographie constamment surexposée. Alors aussi plombée par une voix off de l'héroïne, hein, donc comme je le disais tout à l'heure, qui perd son accent. Le film est beaucoup trop long et répétitif pour convaincre, d'autant que son propos baigne dans une confusion idéologique, hein, qui n'est certes pas volontaire à mon avis. Hein. Alors on sent la réalisatrice proche de Clara, avec un désir de la comprendre, de lui tendre la main pour qu'elle puisse choisir son avenir, loin des sermons, mais tout cela était quand même un petit peu laborieux et assez contre-productif. Hein. Quand on voit les tristes individus qui gravitent autour d'elle, on se dit qu'elle n'était peut-être pas plus mal dans sa secte de relou. Hein. C'est un peu, le problème du film qui finalement dit un peu le contraire de ce qu'il voudrait prétendre, enfin de ce qu'il voudrait dire. Alors si le film sera de sans déplaisir quand même, c'est grâce à son actrice principale au visage d'ange. Alors son jeu tout en retenue mais intense retient l'attention. Alors son nom, hein, Lou Thompson, hein, en espérant la revoir bientôt sur grand écran. Elle est finalement la raison valable d'aller voir ce petit film que j'ai un peu éreinté, mais qui ne m'a pas vraiment plu, mais voilà. Pour elle, c'est possible.
Ça tient à l'actrice. Sur la Terre comme au ciel de Nathalie Saint-Pierre est en salle depuis le 9 octobre. Comment Donald Trump est devenu l'homme que l'on connaît? Nous parlons de Apprentice.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Donald Trump.
Donald qui?
Et oui, Donald, cette scène a bien existé un jour. À Cannes, c'était l'un des films qui a fait sensation, même si le jury ne lui a donné aucun prix. De Apprentice ou de Apprentice du Danois Ali Abbasi a été l'un des films les plus marquants sur la croisette. Alors c'est autant pour son sujet, Donald Trump, quand même, ce n'est pas rien, que pour son propos. Car comme c'est sans cesse défendu le réalisateur, il ne s'agit pas d'un biopic sur l'ex-président et peut-être futur président américain, mais un film qui montre comment il a pu devenir ce qu'il est. Et au-delà de la figure de Donald Trump, c'est aussi l'ensemble d'un système qu'Ali Abbasi dévoile avec un sens du montage et de la mise en scène au cordeau. Et pour cela, pas besoin de voir toute la vie de Trump, mais seulement comment il est parvenu à faire ses preuves au début. Alors le titre de Apprentice reprend le titre de l'émission que Donald Trump a présentée de 2004 à 2017 et dans laquelle des candidats cadres s'affrontaient pour trouver un job dans une grande entreprise. Le film débute bien avant cette popularité. Pour ainsi dire, Trump n'est personne. Il travaille pour l'empire de son père qui est visé par une enquête du département de la justice. Alors cette enquête porte sur des soupçons de discrimination envers les demandeurs noir. Le paternel ne s'en sort pas et Trump a l'idée d'aller chercher Roy Cohn, interprété par Jeremy Strong. Cet avocat a acquis donc sa notoriété dans les années 50 alors qu'il était conseiller de l'anticommuniste McCarthy. Roy Cohn est un dur à cuire, un malfaisant qui se fait craindre. Trump sent qu'il doit apprendre de lui et ça tombe bien car l'avocat lui donne des encouragements et lui file une partie de son carnet d'adresses et des gros tuyaux. Ainsi, la première règle est d'attaquer. Si l'on est attaqué, toujours nier. Ça, c'est la deuxième règle. Et enfin, la troisième règle, ne jamais s'avouer vaincu. Cette dernière s'approche de la catégorie « tuer un winner » ou « tuer un loser ».
Il y a deux types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les losers.
Tu as des dettes jusqu'au cou.
Je sais ce que je fais.
Si tu regardes dans un miroir, tu deviens moche.
N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait.
On a un tout nouveau slogan de campagne. Rendre sa grandeur à l'Amérique.
Rendre, j'adore ce mot.
La relation qui se tisse entre l'avocat qui se transforme en mentor et son élève qui finira par le dépasser est l'essentiel d'une dramaturgique du film. Pour le reste, c'est l'éclatante mise en image de la création du monstre que l'on connaît, un être qui n'est pas grand-chose, un novice en politique et qui petit à petit, avec des coups immobiliers, des coups bas aussi, des chantages, des investissements, une bonne dose de corruption, parvient à bâtir un empire à une époque où New York est dans un marasme économique. Un être qui, à mesure qu'il grossit, ressemble à l'image qu'on en a, nous, en France, un être grossier, déloyal, qui pourrait être violent, là on le voit, avec sa première femme, dont on aura vu pourtant l'entreprise de séduction, tandis que ses frasques sexuelles, en revanche, font l'objet d'un seul plan, d'une seule séquence plutôt, une grande prouesse du réalisateur qui n'a finalement que faire de coller à l'ex-président ses gros dossiers. Un être qui finit aussi par être donc odieux avec son frère, avec son mentor, quand il sent bien celui-ci sur le déclin. Alors ça n'étonne même plus. Et le jeu de Sébastien Stan est vraiment troublant, tout comme la relation qui se dessine avec Jeremy Strong, qui interprète donc l'avocat, son mentor, qui lui aussi joue un personnage évoluant au cours du film. Ali Abbasi semble parfois s'amuser de son sujet. Il y a des images fortes, comme Trump, farouchement anti-homosexuel, qui choisit de fermer les yeux par opportunisme quand il voit son mentor pris dans une orgie avec des hommes. Et au travers de ce parcours, c'est aussi finalement une histoire de l'Amérique qui se dessine, New York, qui se reconstruit en poussant les moins fortunés loin de son cœur, parce que Trump va poser sa grosse tour à New York. L'arrivée de Ronald Reagan et puis aussi le sida qui touche un personnage. The Apprentice pourra apparaître à certains biaisés. Cependant, le scénario a été écrit par Gabriel Sherman, un ancien journaliste politique spécialiste de la droite américaine pour le New York Magazine et qui a eu l'occasion de rencontrer Donald Trump à plusieurs reprises. D'Ali Abbasi, on connaissait évidemment Border et puis Les Nuits de Machad. Il s'agit de son premier film produit aux États-Unis. Cependant, il avait déjà mis un pied aux États-Unis avec l'excellente série Last of Us, dont il a réalisé au moins un épisode. Nous écoutons le réalisateur Ali Abbasi lors de la conférence de presse qu'il a donnée au dernier Festival de Cannes.
Oui. Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup.
Donald qui ?
Roy Cohn, enchanté.
Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux, vous êtes sans pitié.
Je plaide coupable.
Le monstre le plus ignoble que l'on puisse imaginer
in history,
dans l'histoire
also like the dog or,
aime aussi son chien
or was nice to
et a des sentiments
point,
pour
you know?
Telle ou telle personne
and
à un certain moment
that,
de sa vie.
For me, this is, if there is an ideology for
et
the
pour
movie,
moi,
it's
s'il y a une idéologie pour ce film,
it is about,
l'idéologie du film
who are icons, who are
consiste
hated,
à prendre ces personnes qui sont des icônes
and
et de
sort
les
of
faire atterrir
that
et à déconstruire toutes les images mythologiques
earthly
qu'il y a autour
beings,
de ces personnages et donc d'en faire
comes,
des êtres humains.
Sympathy, that doesn't necessarily mean you forgive
ça ne veut pas dire nécessairement qu'on lui pardonne tout, mais on essaie de mieux comprendre le personnage. Je pense que s'il y a une mission que l'on peut donner à ce film, c'est justement cela, déconstruire le personnage.
Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois.
Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant.
Comment on gagne ?
La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer.
Il ne s'agit pas d'un film sur Donald Trump. Il s'agit d'un film sur un système, tout un système et son fonctionnement, la construction de ce système, la manière dont les hommes puissants utilisent le système. Roy Cohn était passé expert en la matière. Il utilisait le système. C'est lui qui a tout appris à Donald Trump, d'ailleurs. Il y a plein d'autres gens qui ont fait pareil. Bien sûr, je ne peux pas faire un biopic sur toutes ces personnes. En même temps, il faut se dire la chose suivante. De mon point de vue, en tout cas, de ma perspective en tant qu'Iranien, je pense qu'il y a une division importante entre conservateurs et le parti plus libéral aux États-Unis. Mais c'est une fantaisie. Ces mêmes personnes assistent aux mêmes soirées, ont fréquenté les mêmes écoles. La personne qui a créé MSNBC a créé Fox News aussi quelques années plus tard. C'est ça la structure dont il s'agit. Kurt Vonnegut l'avait très bien expliqué. Il y a deux partis politiques aux États-Unis. Il y a les gagnants et les perdants. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire un film sur chaque gagnant et chaque perdant. Parce que, bon, c'est du pareil au même.
Ce sera le meilleur hôtel du pays.
Et du monde.
Et du monde. Ce sera spectaculaire.
Règle numéro 2. Ne jamais rien admettre. Toujours tout nier.
Monsieur Trump, pensez-vous pouvoir battre le gouvernement ?
Règle numéro 3. Quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. J'enregistre tout au cas où ça soit utile.
Mais c'est illégal.
Il faut être prêt à faire n'importe quoi à n'importe qui pour gagner.
On a l'impression que ces personnages ont plusieurs vies. Et des vies différentes. C'est ça qui est fascinant dans ce personnage, l'homme politique, l'homme d'affaires Donald Trump. Si on étudie sa vie au fur et à mesure que les décennies passent, on a l'impression que c'est quelqu'un de différent à chaque fois. Et Sébastien, Amy, Martin ont fait un travail absolument remarquable à ce niveau-là.
C'était Ali Abbasi, le réalisateur de The Apprentice, qui était à Cannes. Une idylle au Roland masochiste, nous parlons de Un Amour.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
L'appel de la nature est quelque chose de plutôt en vogue depuis quelques années. Fuir la ville, fuir le stress, fuir les structures agressives et anxiogènes du monde moderne pour se ressourcer et repartir du bon pied, vert si possible. Alors à première vue, Natalia semble être l'une de ces personnes en quête de soi-même alors que l'horizon s'étend à perte de vue. Se retrouver dans un lieu perdu, ça donne quand même parfois des expériences pas très heureuses si on en croit les randonneurs de délivrance de John Boorman ou pour rester dans le monde du cinéma ibérique, le couple de Français de Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Sauf que Natalia, elle a déjà vécu l'enfer. Alors certes, c'est par procuration, car elle est traductrice de témoignages de gens ayant vécu au milieu de conflits abominables et racontant sans phare ce qu'ils ont vécu, mais ce genre de travail laisse des marques et il va bien falloir se reconstruire. Ce qui ne va pas être si évident lorsqu'on débarque dans l'arrière-pays, qu'il est peuplé de gueules cassées métaphoriques et que la mise en scène choisit l'austérité pour accompagner ses pas. Et même si la réalisatrice fait le choix de l'épure, voire même d'une certaine forme de sécheresse, le sujet, les thématiques d'Un Amour ne laissent pas indifférent pour peu qu'on suive attentivement la filmographie de la barcelonaise. Alors l'un de ses plus gros succès à l'international, The Secret Life of Words, mettait déjà en scène les grandes lignes de ce que deviendra ce film 20 ans plus tard, parce qu'il était déjà question donc d'un lieu isolé, ici au milieu de la mer, une plateforme pétrolière où ne vivent que des hommes qui voient débarquer une femme mystérieuse et solitaire essayant d'oublier son passé. En s'occupant d'un homme blessé, une étrange intimité se crée, faite de secrets, Une étrange intimité se crée, faite de secrets tissés de vérité, de mensonges et de souffrances qui ne les laissera pas indemnes et changera leur vie. Si dans Una Mort, hein, il y a un peu plus de femmes, on ne peut pas vraiment dire qu'elles s'imposent ou brillent par leur indépendance. Quand l'une attend son troisième enfant, l'autre est prise de démence. Et quant à notre héroïne, bah c'est avec toutes les difficultés possibles et inimaginables qu'elle va essayer de se faire un trou dans ce trou perdu de la campagne avant d'y renoncer à la fois géographiquement et humainement. D'ailleurs, The Secret Life of Words, soit la vie secrète des mots en français, serait au singulier, ben, un excellent titre pour Una Mort, tant l'utilisation du mot amor ou amour désigne un destinataire ou un protagoniste nébuleux dans le film. De l'amour, hein, ou des personnages véritablement aimables, il n'y en a pas beaucoup, voire pas vraiment. Hein. Alors certes, Natalia va véritablement tisser une relation avec quelqu'un qui est censé représenter cet amor, mais à aucun moment la flamme de ce qui devrait brûler, hein, entre eux ne vient nous illuminer d'une quelconque chaleur. C'est même tout l'inverse, hein, puisque la chair est aussi rêche que les motivations qui animent les personnages derrière. Alors, il subsiste un chien, le seul être qui ne réclame rien, un chien lui aussi abîmé et imposé à Natalia dès son aménagement, mais qui, probablement par son mutisme et sa nature brute désintéressée, personnifiera le fameux amor tant recherché, un peu dans la violence et beaucoup dans les larmes.
Tu perro que le ha reventado la cara a la niña. Tu puto perro.
¿Qué tenemos?
Por eso me espías. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo.
Tout le monde ou presque se cache un passé, hein, plus ou moins lointain et plus ou moins conscient qu'il essaie d'enfouir dans cette nature magnifique mais qui semble si austère, comme si leur tourment fomentait un engrais qui rendait tout déprimant. Alors quand il n'est pas question de misère intellectuelle ou sexuelle, c'est le cerveau, hein, grand coordinateur du corps, qui fait défaut à la seule femme, du coup véritablement libre du film. L'humanité, hein, que cherche Natalia et qu'on lui refuse, et d'ailleurs peut-être avec la trame du chien que personne n'aime, l'histoire la plus touchante et triste, hein, des sous-intrigues de Una Mort. Quand les villageois se détournent Natalia, la vieille dame ne comprend pas qu'on lui soustrait sa garde et qu'on lui supprime celle qu'il écoutait avec ses oreilles et non forcément du recul. Il pourrait y avoir du lautréamont dans ce petit clin d'œil d'éloge à la folie, surtout lorsque notre héroïne, malgré elle, a subi et s'interroge sur les perversions, malheurs et malversations de ce monde, mais comme le rappelle le cadre très étroit des prises de vue choisies par la réalisatrice, même la fuite en avant par l'esprit dégénéré ne pourra lui apporter une solution pérenne. Que reste-t-il de nos amours donc? De beaux paysages raccourcis par un cadre autoritaire serré, un rythme parfois lénifiant et une politique de la terre brûlée comme salvation définitive, même si trop tardive.
Un amour est en salle depuis le 9 octobre. Après Laetitia Doche en septembre, c'est au tour de Céline Sallet de présenter un film, c'est Nikki.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Et pourquoi s'arrêter de peindre sur cette partie?
Je sais pas, c'est quelque chose qui vient, c'est une image, une émotion. Je me fiche des détails.
C'est décidément une période de biopic, ou plus exactement de film qui remonte au commencement. Ali Abbasi l'a fait pour Trump, Céline Sallet l'a fait pour Nikki de Saint-Phalle, un personnage médiatique bien moins sulfureux évidemment que l'ex-président, mais une artiste qui a compté dans l'histoire de l'art. C'est comment Nikki, jeune franco-américaine, mère de famille, débarquée en 52 avec son mari des États-Unis, parvient à basculer vers ce qui la meut au plus profond d'elle. Alors au début du film, Nikki de Saint-Phalle fait le mannequin lors d'une séance photo, et à la fin du film, elle tient un fusil pour faire de l'art. Entre ces deux moments, il s'est écoulé de nombreuses années, notamment un passage en asile psychiatrique. La jeune femme a quelques tocs bien difficiles à évacuer puisqu'elle range des couteaux sous son lit. Son mari décide de l'interner pour son bien et en quelques semaines, elle en ressort en sachant ce qu'elle va faire, créer, être artiste.
J'ai peur des monstres, maman.
Moi aussi. Je sais ce que je vais faire.
Vous êtes en train d'écrire une page de l'art.
Alors, Nikki, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Parce que t'as à dire avec ton art, ça sera foutu.
Il faut que tu regardes les choses autrement. Je voulais que ma vie soit difficile et excitante. Je voulais que ce soit grand.
Ça va être grand, ta vie, Nikki.
« son trauma, on le découvre, hein, c'est qu'elle a subi un inceste étant jeune. Céline Sallette n'en fait pas son film, mais un élément qui caractérise une époque où la parole était moins libérée. Il n'empêche, voilà, la jeune femme admirablement incarnée par Charlotte Lebon, qui s'émancipe, se perd dans des histoires d'amour, trouve sa vocation et cède le trauma pour une catharsis par l'art, ce qu'elle ne quittera plus en s'accordant avec le sculpteur Jean Tinguely. Le grand intérêt de ce film, que certains ont qualifié de classique, eh bien c'est au contraire de tenter quelques petites audaces de mise en scène, comme une image en deux parties pour figurer l'inceste ou le plan d'un portrait diffracté. Autre caractéristique du film, la réalisatrice n'a pas pu montrer d'œuvre de l'artiste Nikita Saint-Phalle, faute d'accord avec les ayants droit. Eh bien, elle en a fait une force, peu importe ce qu'elle fait finalement, cette artiste, on s'en doute un peu, si bien que la caméra s'attarde sur celle qui fait les œuvres, soit le sujet précisément de ce film. Donc Nikki, film que je vous recommande, qui est en salle depuis le 9 octobre.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir. De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine avec L'amour ouf de Gilles Lelouch et puis l'interview de Alain Guiraudy. À la semaine prochaine.
Ça va pas ?
J'ai très très froid.
Ah mais ça va s'arranger.
T'as fermé la porte ?
Oui, pourquoi ?
Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure.
Ah mais c'est normal ça, c'est la saison.
Ah bon ?
This is Cinerama.